Saint-Clair. Saint-Clair vécut au 1er siècle. Il fut converti et baptisé par Saint-Pierre, le prince des apôtres de Jésus-Christ. Nous ne connaissons ni son lieu ni son année de naissance, mais savons qu'il fut ordonné évêque par le pape Saint-Lin, à Rome, en 69 et qu'il mourut en Armorique, à Réguigny, Morbihan, en 96. La lecture de la vie de Saint-Clair selon Albert le Grand, frère dominicain né à Morlaix en 1599 et mort à Rennes en 1640 ou 44. Je l'espère, vous fera aimer ce saint de Bretagne. Peut-être même que l'envie vous viendra de le prier afin qu'il continue d'intercéder pour la Bretagne. La vie de Saint-Clair. Selon l'hagiographe Albert le Grand dans « La vie des saints de la Bretagne armorique ». Traduit en français contemporain par Arnaud Chapin. Le glorieux prince des apôtres, Saint-Pierre, ayant été exécuté à Rome sur ordre du cruel empereur Néron, qui avait déclenché la première persécution contre les chrétiens, Saint-Lin fut élevé au trône apostolique en l'an de grâce 68. Suivant les traces de son prédécesseur, il eut à cœur d'envoyer des évêques et des prêtres dans tous les coins du monde pour soutenir ceux que Saint-Pierre y avait déjà envoyés. Comme les affaires de la religion progressaient en Gaule, sa sainteté y envoya un bon nombre de saints personnages, parmi lesquels se trouvait notre Saint-Clair, qu'il consacra évêque en 69. Il lui donna comme aide le diacre Adéodatus, en guise de riche présent sa bénédiction apostolique, et en précieuse relique le clou auquel le bras droit de Saint-Pierre avait été attaché sur la croix. Saint-Pierre vint à Rome du temps de l'empereur Claude, 42, et y mourut en martyr le 29 juin 67, en même temps que Saint-Paul. Depuis l'an 64, l'empereur Néron persécutait constamment les chrétiens, et lorsqu'il voulut faire arrêter Pierre, les fidèles supplièrent l'apôtre de quitter la capitale. Se fondant sur la parole du Sauveur, « Quand ils vous persécuteront dans une ville, fuyez dans une autre. » Saint-Pierre sortit de Rome à la faveur de la nuit. Pendant qu'il longeait la voie appienne, Jésus-Christ lui apparut chargé de la croix. Étonné, Pierre lui demanda, « Quo vadis, domine, où vas-tu, Seigneur ?» Le maître lui répondit, « Je vais à Rome pour me faire crucifier une seconde fois, puis il disparut. » Pierre comprit que Jésus-Christ lui avait prédit la mort sur la croix et retourna dans la ville. En effet, il fut bientôt arrêté, chargé de chaînes et jeté en prison. Après une détention de 8 mois, Saint-Pierre fut condamné à mort. D'abord il fut flagellé, puis on le conduisit, en même temps que Saint-Paul, au lieu d'exécution. En chemin Saint-Paul fut séparé de lui et mené à une lieu de là où il fut attaché à une colonne de marbre conservée jusqu'à nos jours et ensuite décapité. Avant de mourir, il s'écria, « Seigneur Jésus, je remets mon âme entre vos mains. » Pendant qu'on menait Saint-Paul au supplice, Saint-Pierre fut conduit sur le janicule d'où on peut voir toute la ville et il fut crucifié sur cette hauteur. Il demanda à être crucifié la tête en bas, se jugeant indigne de mourir comme notre Seigneur. Saint-Clair est consacré évêque en l'an 69, à Rome. Ces deux saints personnages, obéissant aux ordres du pape, quittèrent Rome et, sans s'arrêter dans aucune ville d'Italie, franchirent les montagnes, traversèrent la Gaule et arrivèrent en Bretagne armorique. Ils firent halte dans la ville de Nantes, qui, à cette époque-là, était l'une des plus puissantes et florissantes de toutes les cités armoriques, tant en raison de son emplacement avantageux, lui conférant le trafic de la Loire et de la mer, la rendant fréquentée par les étrangers, que parce qu'elle était la résidence des péagers et receveurs des droits maritimes, qui y tenaient leur cours des finances de la province. De plus, c'était également la résidence des archiprêtres de leur religion païenne, qui servait un célèbre temple dédié à un faux dieu, auquel on venait offrir des sacrifices 3 fois par an, provenant de toutes les autres villes et communautés armoriques. Les saints évêques et diacres, sur le point d'entrer dans la ville, réalisèrent que c'était l'endroit où ils devaient annoncer l'évangile. Après avoir visité le temple et constaté l'aveuglement de la superstition qui y régnait, ils commencèrent à prêcher l'évangile. En peu de jours, ils convertirent et baptisèrent un grand nombre de citoyens qui, rejetant le culte des idoles, se convertirent à la religion chrétienne. Le diable, craignant les progrès de ses débuts prometteurs, fit tous ses efforts pour les arrêter. Le démon inspira l'archidruide et les autres prêtres du temple, qui étaient de la secte des druides, contre le saint évêque et son diacre. Ces derniers furent cités pour rendre compte de leur sainte doctrine. Saint-Clair, redoutant que cette persécution ne ralentisse leur mission spirituelle, réunit les fidèles nouvellement convertis et, avec leur accord, envoya le diacre Adéodatus prêcher les Vénètes et ceux de Cornouailles. Il se chargea de répondre à sa citation, prédisant que cette persécution ne durerait pas longtemps. Jules César, 100 à 44 avant Jésus-Christ, écrit dans la guerre des Gaules, VI, chapitre 16. 2. La nation des Gaulois est, dans son ensemble, très adonnée aux pratiques religieuses. Et c'est pourquoi ceux qui sont atteints de maladies graves, ceux qui vivent dans les combats et leurs périls, immolent ou font vœu d'immoler des êtres humains en guise de victimes. Ils se servent pour ces sacrifices du ministère des druides. Ils pensent, en effet, que que c'est seulement en rachetant la vie d'un homme par la vie d'un autre que la puissance des dieux immortels peut être apaisée. Ils ont des sacrifices de ce genre qui sont d'institutions publiques. Sinclair a annoncé la bonne nouvelle aux Armoricains. C'est la bonne nouvelle de Dieu qui s'est fait homme par son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu s'est donné volontairement en sacrifice expiatoire par amour pour les hommes et pour la rédemption de toute l'humanité. Dieu offre son salut et la vie éternelle à tout homme. Dans le paganisme druidique existait une prophétie qui annonçait qu'une vierge allait enfanter. Le Saint-Esprit avait déjà préparé le chemin de l'évangélisation et des conversions. Sinclair prêcha aux druides que c'est Jésus, le Sauveur, qui leur avait été annoncé depuis des siècles par leur père. Le jour de son audience devant les druides, le saint se présenta et prêcha ouvertement les mystères de notre religion. Il leur montra que celui qu'il leur prêchait était le Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, que même les druides, leurs ancêtres, avaient reconnu et glorifié dans leurs écrits. Il déclara que l'idole que toutes les cités armoricaines considéraient comme leur dieu tutélaire et venaient adorer dans leur temple n'était qu'une représentation grossière du dieu qu'il leur annonçait, un en essence et trois en personne, comme il le démontra avec une explication simple et véridique de leur idole. En bref, il parla si clairement de la majesté de la religion chrétienne et dénonça si vivement leur superstition que tout le peuple en fut ému, et un grand nombre reçurent le baptême des mains du Saint-Évêque. Sinclair, aidé des nouveaux convertis, fit construire une petite chapelle qu'il dédia à Dieu sous l'invocation des bienheureux apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul. Il y plaça le reliquaire qu'il avait reçu du pape Saint-Lin. Au même emplacement où Sinclair fit construire une petite chapelle, dédiée à Saint-Pierre et Saint-Paul, se trouve 2000 ans après, à proximité du château des ducs de Bretagne, la cathédrale de Nantes qui reste dédiée au même saint. Malheureusement, le clou, confié à Sinclair par le pape en l'an 69 et conservé dans le reliquaire jusqu'au XVIe siècle, fut jeté dans la Loire par les calvinistes lors des guerres de religion. Pendant que Sinclair travaillait à la conversion des âmes dans le comté nantais et que le diacre Adéodatus était actif dans le pays de Vannes et de Cornouailles, Dieu leur envoya de l'aide. En effet, Drénalu, disciple de Joseph d'Arimathie, après avoir traversé de la Grande à la Petite-Bretagne, descendit avec quelques-uns de ses compagnons au port Saliocan, qui est le port de Morlaix. Là, il prêcha l'évangile et convertit ce peuple. Il érigea une église qu'il dédia à Dieu sous l'invocation de Saint Jacques le Majeur, apôtre récemment exécuté sur ordre du roi Hérode. De plus, à l'une des avenues de la ville, il érigea un pilier ou une colonne sur laquelle il fit graver une croix, et en dessous, dans une petite niche, il plaça une image de Notre-Dame tenant son petit Jésus. Ce pilier a été soigneusement préservé jusqu'à présent. Après avoir converti les habitants de Morlaix, Drénalu continua jusqu'à la ville de Lexobie ou le Causse-Guérande, sur la rivière de Légué, où il établit son siège et initia le siège épiscopal de Tréguier. Ayant appris que Sinclair se trouvait à Nantes et le grand fruit qu'il y produisait, il envoya son archidiacre Congalus pour le visiter en son nom et discuter avec lui des moyens de fortifier la religion chrétienne dans cette province. Le saint prélat fut extrêmement joyeux de cette nouvelle et remercia Dieu pour le soin qu'il prenait de cette nouvelle église naissante. Pour encore plus de consolation, le diacre Adéodatus arriva à Nantes, rendant compte à Sinclair des fruits qu'il avait produits dans les comtés de Vannes et de Cornouailles. Il le supplia de faire un voyage là-bas pour confirmer les nouveaux convertis, consacrer des prêtres et d'autres ministres, et organiser les affaires religieuses nécessaires. Sinclair accepta volontiers ce voyage. Laissant Adéodatus à Nantes, il visita tout son diocèse, qui s'étendait de Nantes au cap de Cisin et à la Grande Mer Occidentale, couvrant les comtés de Nantes, Vannes et Cornouailles. Il accomplit de grands miracles en confirmation de la vérité qu'il prêchait. Après avoir travaillé 26 années dans la vigne du Seigneur, chargé de mérites et de couronnes, il décéda au bourg de Réguigny, dans le diocèse de Vannes, le 10 octobre de l'an 96. Sinclair meurt à Réguigny le 10 octobre 96. Les chrétiens l'enterrèrent là-bas, et l'endroit de sa sépulture est toujours visible, avec son anneau et sa crosse ou bâton pastoral, qui furent apportés à Nantes et placés dans le trésor de l'église cathédrale. Son corps resta à Réguigny jusqu'à l'an 386, lorsque la paix fut restaurée à l'église. Le roi Conan Meriadec sépara les comtés de Vannes et de Cornouailles du spirituel de l'évêché de Nantes, et fit consacrer Judicaël évêque de Vannes. À la demande d'Arisius, évêque de Nantes, qui avait consenti à cette séparation, le corps de Sinclair fut transporté de Réguigny à son église de Nantes, où il fut conservé jusqu'à l'an 878, lorsque les Normands mirent le pied en Bretagne. Il fut alors transporté à Angers et déposé dans le monastère de Saint-Aubin, où il est conservé dans une châsse en argent doré, placée sur le grand autel. Dans la cathédrale de Nantes, on trouve le crâne de Sinclair, enchâssé dans une tête d'argent. Et dans l'église paroissiale de Réguigny, dédiée à Sinclair, on trouve également des reliques, dont le toucher et l'eau dans laquelle elles ont été lavées soulagent quotidiennement les infirmes, particulièrement ceux souffrant de maux aux yeux.